Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous. Dans la foulée de la crise économique de 2008, la question de la fiscalité des États est revenue à l'avant-plan des discours politiques. En juin 2010, les pays membres du G20 signaient à Toronto, au Canada, une déclaration les engageant d'ici 2013 à réduire de moitié leur déficit. Afin de ne pas seulement réduire les dépenses publiques, les pays du G20 ont déclaré vouloir faire front commun dans une prétendue lutte aux paradis fiscaux. Les manques à gagner pour les États sont considérables. Pour la seule France, entre 30 et 40 milliards d'euros, à l'échelle de l'Union européenne, 1000 milliards d'euros, à l'échelle du monde, 26 000 milliards de dollars seraient gérés dans les paradis fiscaux, ce qui correspond à plus d'un tiers du PIB mondial. Où en est-on aujourd'hui de ce vaste chantier? Dans quelle mesure la question des paradis fiscaux constitue un enjeu mondial devant être considéré comme tel? On parle d'accélération de l'histoire. Est-on au bout de la route? Quel lien entre corruption, blanchiment et paradis fiscaux? Nos invités, ils sont deux. Alain Denault, enseignant à l'Université de Montréal, chroniqueur dans la revue Liberté, chercheur au réseau pour la justice fiscale et auteur de plusieurs ouvrages, dont le dernier, Paradis fiscaux, la filière canadienne, Barbade, Caïman, Bahamas, Nouvelle-Écosse, Ontario, aux éditions Éco-Société. Bonjour.
Bonjour.
Et Daniel Lebègue, président de Transparency International France. Bonjour.
Bonjour.
Quelques dates pour commencer. En avril 2009, le G20 décide de passer à l'offensive dans la foulée de la crise de 2008. Il déclare la guerre aux paradis fiscaux et mandate l'OCDE, l'organisation qui regroupe les pays industrialisés, pour faire avancer la transparence. Mars 2010, les États-Unis adoptent le Foreign Account Tax Compliance Act, dit FACTA, qui impose aux banques dans le monde entier d'indiquer au fisc américain tous les revenus perçus par les ressortissants américains sous peine de lourdes sanctions. En mars 2014, donc plus près de nous dans le temps, le Luxembourg et l'Autriche acceptent de valider la directive européenne qui généralise l'échange automatique d'informations entre pays européens. Vers quoi s'achemine-t-on aujourd'hui? Je pose la question à tous les deux, Daniel Lebègue, Alain Denault. Alain Denault.
Ben, je dirais que du point de vue des mesures publiques, il y a une avancée. Et il y a surtout une avancée du point de vue de la prise de conscience des populations quant à un problème qui a longtemps existé précisément pour qu'on n'en parle pas. C'est-à-dire que les paradis fiscaux existent pour permettre à des acteurs puissants de dissimuler des opérations, et pas seulement auprès d'autorités fiscales, mais auprès d'autorités judiciaires quant à tout ce qu'elles couvrent. Cependant, je crois qu'on ne serait pas avisé de présenter le débat en tant qu'il opposerait d'honnêtes états de droit à de maléfiques paradis fiscaux. C'est-à-dire que les paradis fiscaux, moi je préfère dire les législations de complaisance, parce que l'expression paradis fiscal constitue un fait de recyclage de l'esthétique coloniale. Mais passons, les paradis fiscaux et les législations de complaisance sont le plus souvent les créatures des états de droit. Ils ont été souvent aménagés pour permettre à des acteurs privilégiés comme les banques, les industries, les détenteurs de fortune de contourner la règle des droits et des devoirs qui, en principe, dans une démocratie, prévaut équitablement pour tous, afin d'inscrire des opérations dans ce régime d'État particulier que sont les paradis fiscaux. Et en ce qui concerne, par exemple, le Canada, ce sont des Canadiens, souvent près du pouvoir, qui ont activement conseillé, dans les années 50 et 60, les législateurs de la Jamaïque, des Bahamas, des Caïmans, de la Barbade, de Trinité et Tobago et d'autres territoires britanniques de la Caraïbe afin qu'ils transforment leur législation en paradis fiscaux. Et encore aujourd'hui, le Canada, d'une façon ou d'une autre, fait une sorte de lobbying à l'échelle internationale pour les paradis fiscaux qui sont ses protégés, tout en prétendant, dans des grands messes internationales, lutter contre le phénomène.
Lobbying, et vous dites dans votre ouvrage, Alain Denault, précisément, que notamment au sein des grandes instances que sont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, on voit le Canada partager son siège avec un certain nombre de paradis fiscaux. On y reviendra peut-être. Daniel Lebègue.
Depuis 2008, la crise financière, la création du G20, on a fait du chemin, et à vrai dire, beaucoup de chemin. Beaucoup de chemin. Sous l'impulsion du G20, de l'OCDE, mais aussi des acteurs de la société civile, comme on dit, les ONG, les églises, les médias. Alors, on a fait du chemin. D'abord, en matière d'échange d'informations entre États, Peut-on opposer le secret bancaire à la coopération internationale pour lutter contre la fraude fiscale? Il est clair qu'on a changé les règles du jeu. On était dans un système dit d'échange d'informations à la demande. On faisait une demande aux banques suisses, au Luxembourg, etc. Ils répondaient, ils ne répondaient pas. Bien souvent, ils ne répondaient pas. Ils fournissaient une information qui ne permettait pas à l'administration fiscale ou au magistrat d'agir. La règle a changé du tout au tout, au niveau mondial. La règle est devenue l'échange automatique d'informations entre les pays, les territoires et les États qui continuaient à manifester des réticences. Ça y est, ils ont cédé. Ils ont cédé.
Vous pensez
le Luxembourg, l'Autriche, la Suisse, mais aussi Monaco, les paradis fiscaux en Europe. Ils sont tous en train d'accepter, à vrai dire de gré ou de force, l'échange automatique.
Là, vous parlez de l'Europe, Daniel Lebègue.
Non, ça concerne aussi le G20. Le même engagement a été pris et mis en œuvre par les États-Unis et les pays émergents du G20, y compris la Chine, qui a acté le principe de l'échange automatique d'informations. Ceci vaut pour Hong Kong et pour des pays proches de la Chine comme Singapour, qui vient d'acter ça dans les dernières conventions fiscales que le pays a signées. Donc ça, c'est un changement majeur. Majeur. Tous ces pays-là, y compris les centres offshore, fourniront à d'autres États, des partenaires, chaque année, l'état des comptes et le montant des avoirs détenus sur des comptes, comptes espèces, comptes titres, par des non-résidents. Je rappelle que la loi américaine l'impose à tous les pays du monde, c'est la loi FATCA, et elle entre en application cette année, 2014. Si j'ajoute à cela le problème des structures opaques. Alors là, on n'est pas au bout de la route. Mais ça y est, le dossier est sur l'agenda du G20, du G8, de l'OCDE. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'imposer à des structures du type société écran, trust, fiducie, l'obligation de déclarer les bénéficiaires réels de ces structures qui se dissimulent dans les structures écrans pour ne pas être connus, ne pas donner leur identité. Là, l'accord reste à finaliser, mais il est en bonne route. Il est en bonne route au travers l'idée sur laquelle on travaille au G20, à l'OCDE, c'est l'idée d'un registre public des sociétés écrans, des trusts, qui permettrait d'ouvrir les boîtes noires qui existent encore. On ajoute enfin l'obligation pour les entreprises du secteur de l'énergie et en Europe, pour les banques et les institutions financières, de publier leurs résultats et les impôts qu'elles payent pays par pays. Ça, c'est une information fondamentale qui met fin à la transparence. Et dernier élément, alors là, le travail reste à faire, mais il est lancé. À l'initiative des Britanniques, il faut quand même le dire, le problème de l'excès d'optimisation fiscale de la part de certaines entreprises multinationales. L'OCDE a annoncé qu'elle fera, fin 2014, des propositions pour mettre fin à des situations qui sont inacceptables. Les grandes entreprises du secteur numérique réussissent pratiquement à ne pas payer d'impôts à l'échelle mondiale. C'est devenu intolérable pour tous les États du monde, y compris pour les États les plus libéraux qui ont besoin de recouvrer leurs impôts. Donc je trouve qu'on fait beaucoup de chemin.
Alors effectivement, les sociétés numériques qui se retrouvent à payer des taxes absolument dérisoires, 2,2% en Irlande ou 2,4% au Luxembourg. Ce que j'entends, Daniel Lebègue, de ce que vous venez de dire, et vous également Alain Denot, mais je me tourne vers vous Alain Denot pour vous m'apporter une réponse à ce que je vais dire là, c'est que finalement ce qu'on sent bien, donc au niveau des banques, transparent, immense levée du secret bancaire. Ce qu'on voit, c'est que finalement, au niveau des particuliers, eh bien tout ça, il y a un certain ordre qui est en train d'être mis. En revanche, on voit bien que face au mastodonte de l'entreprise, on en est encore loin, avec notamment ce chiffre que j'ai, que les deux tiers des fonds cachés dans les paradis fiscaux appartiennent à des entreprises. Alain Deneau.
Oui, effectivement, le contexte est favorable à des avancées depuis la crise financière de 2008. Et il est vrai qu'il y a des mesures qui se mettent en place ou qui sont annoncées, qu'il faut distinguer hein, parce qu'on attend encore de voir, mais qui témoignent une volonté de la part d'un certain nombre d'États de droit de, au moins d'endiguer le phénomène, si ce n'est de le contrôler un peu plus. Cela dit, en même temps qu'on fait la lutte à la fraude fiscale et à un certain nombre d'opérations qui ont lieu dans les paradis fiscaux, précisément pour permettre l'organisation de filières criminelles, par exemple, ou les favoriser. En même temps, on tente à légaliser un certain nombre de recours. Je donne un exemple. En 1980, le Canada a signé un accord de non-double imposition avec la Barbade. Mmh. Cet accord-là permet légalement à des entreprises de créer des filiales à la Barbade, de leur céder, par exemple, des droits de propriété intellectuelle sur leur marque, et elles se louent à elles-mêmes un certain nombre de services ou de biens, de façon à transférer le plus de fonds possible dans ce paradis fiscal. Grâce à cet accord de non-double imposition, on peut ensuite rapatrier les fonds chez soi sans qu'ils ne soient imposés. Quoi. Bon, d'une manière générale, depuis 1990, les transferts d'entreprises dans les paradis fiscaux, en termes monétaires, ont augmenté de 1500%. Et très souvent, les opérations qui sont en cause ont été légalisées. Et nous, ce qu'on voit du point de vue d'une législation canadienne qui est une sorte de paradis fiscal mixte, ou c'est-à-dire c'est un État qui offshorise un certain nombre de dispositions de son cadre légal. On pourrait dire la même chose de l'Irlande, des Pays-Bas, de l'Autriche, de la Belgique, ainsi de suite. Donc il y a les paradis fiscaux qu'on a tendance à citer qui sont les plus visibles, quoi, ou les plus les exemplaires, là, les Bahamas, la Suisse, le Luxembourg, mais aussi ces États qui s'inspirent des paradis fiscaux pour font rendre possible le recours aux paradis fiscaux du point de vue de leurs propres ressortissants ou pour créer eux-mêmes des, sur un mode tout à fait légal, là, des entités offshore. Monsieur Lebec parlait du domaine de l'énergie. C'est vrai qu'on surveille de près cette filière-là, mais en même temps, au Canada, on vient de créer une fiducie de revenus non imposable à la condition que les créateurs de cette fiducie détiennent des actifs à l'extérieur du pays. Donc, on est continuellement en train de lutter contre la fraude fiscale en même temps qu'on aménage les législations en s'inspirant des mesures offshore pour attirer un capital devenu souverain. Donc, ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, au-delà des enjeux fiscaux et de la question de la reddition des comptes, les paradis fiscaux sont les adversaires des États de droit d'un point de vue politique. Là. Quittons le champ strictement technique, là, d'un point de vue politique. Si les paradis fiscaux existent, si on a aménagé les îles Caïmans comme on l'a fait, si on a aménagé l'île de Man comme on l'a fait, si on a aménagé les îles Marshall comme on l'a fait du point de vue législatif, c'est pour permettre à des acteurs qui sont face à des contraintes dans les États où ils agissent de contourner les règles de droit, non seulement en ce qui concerne le fisc, mais en ce qui concerne le droit pénal, de façon à mener des opérations qui seraient illégales chez eux. Et je pense là à Marie-Christine Dupuy-Danon, qui est une experte en matière d'anti-blanchiment, qui a travaillé à l'ONU déjà, qui dit dans Finance criminelle, le problème aujourd'hui, c'est que lorsque un acteur puissant a en tête de mener une opération qui est illégale, la question qui se pose pour cet acteur, c'est d'inscrire ces opérations là où elles deviennent légales. Les paradis fiscaux, les législations de complaisance, au fond, louent leur souveraineté pour légaliser des méfaits.
Ce qui fait dire, et Daniel Lebec, je me tourne vers vous, à certains, que finalement ces institutions, l'OCDE, le G20 que vous mentionniez tout à l'heure, dans leur volonté de lutter contre les paradis fiscaux, l'évasion fiscale, ou ce que vous dites, c'est l'optimisation fiscale, font finalement preuve de beaucoup de naïveté, c'est-à-dire que voilà, il y a une volonté de lutter, mais une certaine un combat assez inégal. Je veux dire, tout ça est en constante mouvance et adaptation permanente. Daniel Lebec.
Oui, là je crois on est vraiment au cœur du sujet. La mondialisation de l'économie, qui est une bonne chose, qui est une très bonne chose pour l'humanité.
De toute façon, on peut
pas aller libre circulation des idées, des personnes, des biens, des services, et même de l'épargne, de l'investissement, c'est bien, c'est bien. C'est bien pour le niveau de vie de millions, de centaines de millions de personnes qui progressent. C'est bien pour la démocratie. C'est bien pour la paix dans le monde. Donc la mondialisation est une bonne chose. Mais pour l'instant, Alain Denoy a complètement raison. La mondialisation s'est accompagnée d'une expansion incontrôlée des flux financiers illicites et de ce que l'on appelle parfois la finance de l'ombre, la banque de l'ombre, le shadow banking, la shadow finance. À mon avis, on ne pourra pas continuer sur la dérivée actuelle. On ne pourra pas continuer sur la dérivée actuelle parce que si pour les citoyens, la mondialisation est synonyme de développement permanent et non contrôlé, on va dire de l'économie souterraine, de l'économie du crime, des flux financiers illicites, il y a un moment, dans les pays riches, dans les pays émergents, pays en développement, il y a un moment où les citoyens vont dire non. Non, cette mondialisation-là, on n'en veut pas.
Ce qu'il commence à dire, Daniel
Lebagne. Ce qu'il commence à dire, n'est-ce pas ? On vient de le voir dans les élections européennes. Donc ça, c'est l'enjeu majeur. Je pense pour ma part que les gouvernements ne vont pas pouvoir faire l'impasse, faire la politique de l'autruche par rapport à ce phénomène et à ces risques. Ils vont pas pouvoir. Parce que politiquement, il y a évidemment les enjeux budgétaires, rééquilibrer les comptes publics, bien. Mais c'est plus que cela. C'est, j'allais dire, est-ce que on poursuit dans la voie de la mondialisation incontrôlée avec toutes ses conséquences négatives? Et à mon avis, on est au point limite où l'opinion, une grande partie des citoyens dans le monde, pas seulement en Europe et en France, disent finalement les inconvénients, les risques de la mondialisation sont peut-être plus grands que ce qu'apporte la mondialisation. Ça, c'est le sujet de fond. Et moi, je pense, peut-être suis-je rousseauiste ou trop optimiste, je pense que dans cette situation, face à ce constat, les gouvernements vont devoir agir. Ils n'ont pas le choix. C'est ce qu'ils ont commencé à faire, on le disait, en matière de lutte contre la grande fraude fiscale, avec des résultats incontestables. En France, il y a plus de 20 000 personnes qui avaient des comptes non déclarés à l'étranger qui ont régularisé leur situation en 2 ans. À l'échelle de l'Union européenne, on est à 140 000 investisseurs épargnants qui ont régularisé leur situation. Donc il y a un mouvement incontestable. Maintenant, on a le problème des sociétés multinationales. On vient de l'évoquer. Moi, je vous donne mon anticipation. J'espère ne pas me tromper. Les grandes multinationales, notamment de l'industrie du numérique, vont être rattrapées par la patrouille.
La patrouille ?
Par l'action de la communauté internationale et des gouvernements. La Commission européenne vient d'annoncer l'ouverture d'une enquête sur le régime fiscal de l'Irlande, de Luxembourg et des Pays-Bas. Et en cœur de cible, tout le monde, on ne le dit pas, mais moi je peux le dire, il y a Google, Facebook, Apple, Walmart, toutes ces multinationales qui trouvent le moyen de ne pas payer l'impôt, ni en Amérique du Nord, ni en Europe. Ça, ça ne peut pas continuer. Voilà.
Alors, des multinationales qui, tout à fait intelligentes, ont su tirer profit. Alors, malheureusement, il ne nous reste pas beaucoup de temps dans cette première partie d'émission, mais évidemment, on développera dans la deuxième partie, qui ont su tirer profit, Alain Denoy, de la concurrence entre les pays en termes de fiscalité, c'est-à-dire qu'on va au plus offrant.
Oui, je partage tout à fait les vœux de Daniel Beg en ce qui concerne là où on devrait aller, mais un peu moins l'optimisme, dans le sens où aujourd'hui, ce qu'on voit, ce sont des gouvernements s'inspirer en grande partie des paradis fiscaux pour attirer un capital devenu souverain. Ça, c'est un premier problème. Là, c'est-à-dire que, les États de droit qui ont créé ces paradis fiscaux sont devenus les émules de leurs créatures.
On poursuivra, Alain Denoy, dans la deuxième partie de l'émission. Désolé de vous couper, géopolitique, nous retrouvons nos invités, Daniel Beg et Alain Denoy, dans quelques instants. À tout de suite.